Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Divorce à l'amiable, 299 TTC, tout compris. Voilà le genre d'annonce que l'on peut trouver sur Internet lorsque l'on tape « divorcé » dans un moteur de recherche. Le divorce, il devient de plus en plus courant en France, n'en reste pas moins toujours un drame douloureux qui marque les conjoints et les enfants évidemment, mais également la société tout entière. Face à ce drame, les chrétiens essayent de faire leur part, encouragés en cela par le pape François, qui dessine à l'intérieur de l'Église catholique le chemin d'un plus grand accueil. Coup de projecteur ce matin sur un parcours spécialement conçu pour eux et proposé dans le Sud-Ouest. Les Cotopaïs aux côtés des divorcés, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, il y a du monde autour du plateau. Isabelle Arnal, vous êtes animatrice de ce parcours dont on va parler, chrétiens séparés, divorcés, chemin d'espérance. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Négro, vous êtes co-responsable de ce même parcours, accompagné par les jésuites. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Claire Depré, vous êtes conseillère conjugale et familiale. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, à nous rejoindre un petit peu plus tard, Marie-Pierre, qui est concernée par le sujet, mariée et divorcée, et mère de famille, et qui sera notre témoin du jour. On va essayer de parler de cette réalité qu'on aimerait parfois éviter parce qu'elle est bien douloureuse du divorce en France. Alors le divorce, j'ai regardé quelques chiffres et j'ai vu chose étonnante que en 2017 il y aurait moins de divorces qu'avant. Selon l'INED, on était à 33 divorces pour 100 mariages en France, mais c'est une fausse bonne nouvelle puisque les divorces ne sont plus prononcés devant le juge, mais devant un notaire. Ces chiffres, à chaque fois que vous les voyez, vous les lisez dans la presse, on imagine vous qui accompagnez ces personnes ou qui êtes un peu concerné ou qui avez été concerné, Isabelle Arnal ou Jean-Pierre Négro, ça vous assomme, ça vous fait mal à chaque fois, Jean-Pierre Négro?
Oui, ce qui fait mal, c'est de voir en gros qu'un mariage sur deux un couple sur deux se termine par un échec et que ça génère beaucoup de conséquences et de souffrances, pas seulement sur le couple, mais aussi sur les proches, les enfants, voire un petit peu plus largement.
Je lisais aussi dans la presse, alors cette fois c'était La Dépêche, que le confinement, alors on en avait parlé à propos de la Chine, mais c'est semble-t-il aussi le cas de la France, aurait provoqué une hausse des divorces. Un certain nombre donc de notaires auraient noté, après en tout cas surtout la deuxième quinzaine de mai, une hausse importante des divorces, c'était à l'époque plus 25%. Alors ces chiffres sont depuis ont diminué. Ça aussi c'est une information peut-être, Isabelle Arnal, que vous avez vu passer. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Ça vous a étonné ou pas?
Pas vraiment. Je voudrais pas paraître trop pessimiste, mais il est vrai que le confinement a révélé un certain nombre, mais à vif peut-être un certain nombre de dysfonctionnements des couples qui peuvent passer plus inaperçus lorsqu'on peut avoir une vie sociale à l'extérieur, travailler. Le confinement, bien sûr, pour beaucoup de choses, a été un révélateur des maux de notre société, et je pense que sur ce sujet-là, il en a été comme pour le reste.
Quelques éléments encore d'actualité sur lesquels je vous fais réagir au début de cette émission. Après on parlera de la manière dont l'Église essaye d'accueillir ces réalités et particulièrement donc de votre initiative. La loi sur le divorce, j'ai vu, en fait, date du 20 septembre 1792. Elle avait été donc supprimée sous la Restauration puis rétablie sous la Troisième République. Est-ce que vous avez l'impression que dans le fond il y a quand même aussi une sorte de libéralisation du divorce, Jean-Pierre Négro, c'est-à-dire de plus en plus ça devient facile, on n'a plus à passer devant le juge, par exemple, depuis cette loi de 2016. Maintenant, ça se fait devant notaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inquiète?
J'ai pas vraiment d'avis sur ce caractère de libéralisation. C'est un fait de société. On est dans une société où, dès lors que on supporte mal certaines contraintes, et c'est le de vivre en couple en est une, on trouve tout de suite une issue administrative, une issue légale pour éviter, pour fuir d'une certaine manière. Alors ce qui m'inquiète, c'est peut-être ça, c'est que il y a un régime de fuite qui est peut-être plus prégnant aujourd'hui que il y a quelques dizaines d'années.
J'ai l'impression que les pouvoirs publics font moins leur travail en fait d'accompagnement des couples dans la promesse qu'ils se sont fait civilement au moins d'une certaine fidélité et constance.
Alors est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics ? Ça, je pose la question. En tout cas, c'est clair que et le pape François s'en préoccupe aussi. Il est clair que la famille est une cellule sociétale importante, qui est une cellule de base. Et peut-être que la société, que les pouvoirs publics aussi, devraient s'en préoccuper. En tout cas, la manière dont ils le font aujourd'hui n'apporte pas des résultats sur le plan de la durabilité des couples et des familles qui sont positifs.
Le divorce, donc, qui a des conséquences, je le disais, évidemment, pour pas seulement pour la famille et la famille élargie, mais pour toute la société. Derrière, il y a la question parfois du problème du logement, puisque qui dit divorce dit deux logements, c'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent. Et puis un autre aspect, c'est l'aspect financier. Je disais que c'est 30% de perte de pouvoir d'achat, et souvent à l'issue d'un divorce, avec les femmes qui sont particulièrement concernées. Vous, Isabelle Arnal, vous avez vous-même vécu donc le divorce. Qu'est-ce qu'on ne voit pas quand on ne connaît pas cette réalité comme conséquence, on va dire, secondaire du divorce au-delà du drame familial? Ça ressemble à quoi? Il y a de fait une baisse, on va dire, des moyens pour vivre, des difficultés parfois d'ordre très matériel?
Pour un certain nombre de gens, très certainement. Bon, j'ai eu la chance de ne pas être la plus concernée par ces difficultés. Peut-être aussi parce que le fait d'être entourée d'une famille, évidemment, aide aussi à amortir le choc économique. Mais il est tout à fait certain que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de femmes en particulier, que j'en connais, bien sûr, comme tout le monde, c'est beaucoup plus difficile.
Pourtant, c'est souvent elles qui ont la garde des enfants. Alors, on peut se dire que dans ces cas-là, les pouvoirs publics soutiennent ces mamans financièrement. Donc, ça amortit le choc quand même, non ?
Oui, il est tout à fait certain qu'on a aussi la chance d'avoir un système de prestations sociales qui, pour ça, permet aussi d'amortir. La difficulté, à mon sens, ne réside malgré tout pas dans ses conséquences. Ce qu'il y a de plus difficile à vivre, à mon sens, reste malgré tout le drame personnel, familial, que peut engendrer la séparation, même si évidemment toutes les difficultés matérielles qui vont avec viennent accentuer, on pourrait dire, la perte de statut et la perte de sécurité, bien sûr financière, mais aussi affective.
Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un drame, le divorce ? Est-ce que c'est, enfin, faut pas se cacher derrière son petit doigt, en l'occurrence ?
C'est toujours un drame. Et ça, c'est un des problèmes de la société actuelle, c'est qu'il y a une grande banalisation du divorce. On l'oublie, c'est devenu tellement courant que on oublie vraiment les souffrances personnelles que ça peut entraîner.
Jean-Pierre Négro, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet ? C'est toujours un drame et justement, c'est le mensonge, c'est de faire croire que ça n'est pas le cas.
Oui, peut-être, oui. C'est-à-dire de banaliser, ça peut laisser entendre qu'on est tout à fait dans la normalité, alors que les souffrances sont là, et elles sont pas seulement là pour la personne qui est éventuellement quittée. Les souffrances sont déjà présentes dans les fractures qui sont là dans le couple avant même la séparation. Et il n'y a pas forcément un soutien avant, pendant et puis après. Donc le soutien après, c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre des Cotopaïs.
On va y venir. J'aimerais juste qu'on parle un tout petit peu de la manière dont l'Église essaye en général d'accueillir donc ce genre de situation. Alors on pourra pas faire un tour d'horizon ni universel ni à l'échelle de la France, mais en tout cas à citer le pape François qui de retour d'un voyage à Rio, c'était en juillet 2013, avait dit la chose suivante: avant tout, donc, il faut soigner les blessés. L'Église et mère, elle doit aller sur la voie de la miséricorde et trouver une façon d'exprimer la miséricorde pour tous. Et le pape François a continué: quand le fils prodigue est revenu à la maison, son papa ne lui a pas demandé « qu'as-tu fait de l'argent ?» mais il s'est inquiété pour lui et a organisé une fête pour le recevoir. Et puis après, il y a eu le synode sur la famille et d'autres initiatives qu'on pourrait citer. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église et que ça profite aussi à votre initiative, Jean-Pierre Négro ?
Oui, c'est clair que depuis le synode sur la famille et Laetitia Amoris, il y a eu de...
Amoris Laetitia.
Amoris Laetitia, il y a eu une prise de conscience un peu particulière et une main tendue aux personnes séparées, divorcées et aux personnes remariées en particulier, parce qu'il y a quand même un divorcé sur trois qui se remarie aujourd'hui, bon, pas forcément, ou qui se remet en couple. voire plus, parce qu'on n'a pas toutes les statistiques. Donc effectivement, l'Église a prévu des choses et a fait évoluer son regard sur sur la situation des personnes divorcées. Est-ce que c'est mis en œuvre, en fait, les recommandations du synode sur la famille, est-ce qu'elles sont mises en œuvre partout? C'est moins certain. Certains s'y essayent, d'autres moins, ou sont plus timides sur le sujet.
Voilà, le pape François qui a, donc à l'issue, dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, avait invité les prêtres à examiner l'innombrable diversité des situations particulières et à vouloir que l'Église rentre dans un chemin de discernement sur le sujet. Alors, votre initiative des Côtes au Pays, ça fait donc maintenant une dizaine d'années, vous me disiez que ça existe d'une manière ou d'une autre. Ça s'appelle Chrétiens séparés, divorcés, chemin d'espérance. C'est un parcours, Isabelle Arnal, comment vous présenteriez cette initiative et quelle est sa genèse ?
Alors, sur sa genèse, je vais peut-être zapper si vous
nous dites ce que vous voulez nous dire.
Parce que
c'est
pas forcément le plus intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment effectivement d'offrir un lieu de parole et de rencontre à des personnes qui sont confrontées à la séparation. Parce que dans leur entourage, elles n'ont pas nécessairement les personnes à qui parler. Et il est très important, enfin, ce qui est vraiment essentiel, c'est de pouvoir parler, raconter ce qui m'arrive, voilà, que j'avais pas forcément prévu, et même souvent on n'avait jamais imaginé pouvoir se trouver un jour dans cette situation-là.
Donc ça a commencé par des groupes de parole, tout simplement, c'est ça, votre
initiative ? C'est l'idée, effectivement, de pouvoir accompagner, recevoir des gens qui sont blessés et leur permettre d'échanger sur ce qui leur arrive, à la fois avec des personnes qui sont dans la même situation et des accompagnants d'église. Et réaliser finalement qu'on n'est pas seul et qu'il y a un chemin qui peut s'ouvrir à partir de cette situation.
Alors comment vous construisez un peu plus ce parcours si vous deviez rentrer dans le détail? Donc il y a un certain nombre de rencontres, je crois une demi-douzaine, donc avec des thèmes, choisir la vie, la vérité vous rendra libre, l'enfant et la parentalité dans la séparation, le pardon qui délie. Jean-Pierre Négro, quels sont les grands principes qui président à la construction de ce parcours?
Voilà, donc le moyen privilégié c'est la parole, bien sûr, exprimée. C'est l'expression des personnes séparées, divorcées. Puis c'est l'écoute pour nous. Mais on essaye aussi de proposer un cadre et un chemin qui permet de franchir un certain nombre d'étapes. On a repéré, par notre expérience et puis l'expérience de l'accompagnement, qu'il faut faire un chemin et qui est un chemin une forme de chemin de deuil, d'une rupture, d'une blessure, d'une souffrance. Et ce chemin nous amène assez naturellement au pardon qui, en fait, lorsqu'on peut l'aborder sereinement, pacifie, va unifier, va permettre à la personne de rechoisir la vie d'unifier son être, donc en s'appuyant sur la prière en particulier, en s'appuyant sur sa foi, hein, et sur la foi qu'elle a en Dieu, mais pas seulement, il y a aussi d'autres aspects donc qu'il faut ne pas éluder, c'est-à-dire les réalités.
La fine pointe, c'est donc de faire un chemin de pardon, à vous entendre. Après, oui. Ces passages pour lesquels vous essayez de prendre la main des personnes qui viennent, quels sont-ils, ces grands passages?
Les passages, les personnes sont souvent dans le déni ou le regret, la colère aussi, les remords du passé. Ils ont quelquefois du mal à regarder le réel, la réalité. Donc il y a un principe de réalité. Et il y a un passage du flou au clair. Donc regarder la réalité, faire la vérité sur ce qui a été vécu dans le couple et au moment de la séparation. Ensuite, il y a ce passage de la colère, de la haine, quelquefois même au pardon à vivre à l'intérieur de la famille qui a explosé, mais du pardon aussi à vivre avec un environnement proche. Et ce pardon, on considère qu'il doit s'appuyer sur un pardon reçu de Dieu d'abord, c'est-à-dire que c'est une réconciliation avec Dieu qui nous permet d'aborder la question du pardon avec les autres. Il y a aussi un passage d'une forme d'exclusion, on le disait un petit peu tout à l'heure, mais les personnes séparées, divorcées se trouvent très vite en marge d'une certaine société,
Parfois en marge de l'Église aussi. Hein.
Quelquefois en marge de l'Église.
Une expression, c'est souvent une épreuve ecclésiale.
Tout à fait.
J'ai lu ça.
Ouais, tout à fait. Donc en marge de l'Église aussi, et il y a après ce passage.
Mais je veux dire, c'est toujours une réalité que ça soit une épreuve ecclésiale. On a l'impression que ça c'est quelque chose qui valait peut-être encore.
Ça l'est plus ou moins, mais ça l'est toujours, je crois. Enfin, les personnes que j'ai rencontrées. À un moment ou à un autre, le vivre comme ça. Ça dépend des personnes qu'on rencontre, que ces personnes rencontrent à l'intérieur de l'Église, et probablement de l'attitude plus ou moins bienveillante de ces personnes-là.
Mais puis parfois, on a peut-être envie de couper aussi avec sa vie d'avant, donc peut-être on prend des distances avec un certain nombre de relations, non ?
C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il y a un repli sur soi et qui est dangereux, hein, parce que finalement, on vit avec sa souffrance et on y reste. Et...
Alors, ce dernier passage que vous vouliez citer, donc, que vous étiez en train d'expliquer, là, c'est quoi ? En fait, c'est d'arriver à quoi ? À recréer une nouvelle...
En fait, à partir du moment où... on a pu être pardonné et choisir la vie, on peut effectivement se mettre sur une dynamique de réintégration sociétale, de réintégration dans l'Église, s'ouvrir aux autres, peut-être même reconstruire quelque chose, effectivement. Et donc, c'est la vie qui reprend, quoi.
Eh ben, on va en parler, on va faire une première pause. Je cite juste une information que j'avais trouvée à l'occasion de la préparation de cette émission. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais à l'occasion donc de la deuxième session du synode sur la famille, qui a donné lieu après donc à la publication de cette exhortation apostolique à Maurice Laetitia, qui a beaucoup fait parler d'elle dans l'Église, avait été aussi supprimée l'interdiction infligée aux personnes divorcées de faire les lectures au cours de la messe ou de faire le catéchisme et parfois d'avoir que la voie soit ouverte au catéchuménat, c'est en tout cas à l'échelle de l'Église universelle. Ça paraît surprenant, mais du coup c'est mieux en le disant. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, chrétiens séparés, divorcés, chemin d'espérance, si vous voulez en savoir plus, et ben vous tapez coteau-pays.net sur internet et vous trouverez toutes les informations nécessaires. On vous retrouve dans quelques minutes. On va mettre un coup de projecteur sur l'un des parcours qui est proposé à l'occasion de ce parcours, justement, choisir la vie ou faire un chemin de vérité. Ce sera entre autres avec vous, Claire Depré.
Seigneur, envoie ton... que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. Je prendrai ta parole.
Présence. Emmanuel Pella.
Les Coteaux Pays aux côtés des divorcés, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. En ce mardi, on met un coup de projecteur sur l'une ou l'autre réalité de la vie chrétienne de notre région. Et autour du plateau, il y a Isabelle Arnal et Jean-Pierre Négro qui sont tous deux animateurs d'un parcours intitulé « Chrétiens séparés, divorcés, chemin d'espérance ». Claire Depré qui est psychologue, conseillère conjugale et familiale. Et Marie-Pierre, mariée et divorcée, qui est notre témoin du jour. Vous n'êtes pas psychologue ?
Je ne suis pas psychologue.
Ah bon, vous voyez.
Conseillère
conjugale et familiale.
Voilà.
Vous pouvez pas tout avoir comme qualité, hein, mais déjà on est content de vous avoir. Alors c'est vous qui êtes un peu à la manœuvre. On a entendu donc que ces parcours, c'est d'abord un lieu de parole, d'échange, un lieu pour comment dire, pour exprimer ce qu'on n'a parfois pas l'occasion d'exprimer ailleurs. Et puis on y reviendra. Souvent c'est, on y fait l'expérience d'une relation fraternelle forte. Néanmoins, il y a des intervenants, dont vous, qui essayez d'accompagner ou de donner des clés pour les participants. On vous fait intervenir entre autres sur un thème, choisir la vie. Qui est aussi presque le titre d'un livre dont vous vous inspirez, de Simone Paco. Alors, quelle était la commande déjà, Claire Depré ? Choisir la vie, qu'est-ce qu'on vous demandait de développer comme propos ?
Alors, ce qu'on me demandait de développer, c'était de pouvoir faire entendre à ces personnes qui assistent à ces rencontres que la vie nouvelle était possible, que vraiment on pouvait rebondir après de telles épreuves, parce que en effet ce sont de véritables épreuves, et que il fallait peut-être pas espérer tout de suite pouvoir rebondir, qu'il fallait se laisser le temps de pouvoir digérer cette épreuve, de pouvoir la vivre, parce que c'est important de pouvoir la vivre, et que ensuite pouvait venir une vie nouvelle, que c'était possible.
Alors il faut dire aussi que vous vous accompagnez dans le cadre donc de votre profession un certain nombre de personnes qui sont concernées par le divorce.
Oui, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir en me demandant de les aider à divorcer sereinement. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent en me disant voilà, on voudrait divorcer, se séparer proprement, et comme le disait Isabelle tout à l'heure, ils ont le sentiment que un divorce ça peut se faire vraiment facilement, sans difficulté et sans douleur.
Qu'est-ce que vous répondez ?
Que c'est pas possible, que malheureusement le fait d'être de se sentir ne plus être aimé, de se sentir affectivement délaissé, c'est extrêmement difficile à vivre, et que c'est souvent une grande souffrance.
Et parfois, juste de mettre face à la réalité qui est que ça va être un drame, ça aide certains à faire un chemin différent de celui qu'ils avaient prévu, ou sans révéler des secrets professionnels.
Alors je pense que finalement ils sont assez soulagés de l'entendre, parce qu'au fond d'eux-mêmes ils souffrent. Ils se demandent s'ils sont normaux, puisque on leur fait croire que divorcer c'est facile et que ça se fait sans drame. Et je pense qu'en fait ils sont assez soulagés de se dire mais finalement ce que je ressens comme tristesse, comme peine, comme colère, c'est normal.
Alors parlons un petit peu de Simone Paco. Simone Paco, c'est donc une grande figure du catholicisme français. En tout cas, c'est comme ça que le journal La Croix décrivait cette femme, figure discrète, qui est décédée donc en 2017, qui a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle « Oser la vie nouvelle », paru aux éditions du Cerf, et puis qui a tracé un chemin qu'on appelle l'évangélisation des profondeurs. Vous vous en inspirez. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez Simone Paco de si intéressant, entre autres, pour les personnes confrontées au drame du divorce ?
Alors j'aime énormément Simone Paco, je disais tout à l'heure que je regrette beaucoup qu'elle ne soit pas beaucoup plus connue. Ce que je trouve très beau chez elle, c'est qu'elle a réussi à faire un lien très, très constructif, enfin très fort entre une spiritualité très humaine et est-ce qu'on peut vivre psychologiquement. Et il y a de très beaux... Alors, Simone Paco, elle est très connectée avec l'Esprit Saint.
Quel est le sens de l'évangélisation des profondeurs? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème, en fait?
Alors, c'est de pouvoir venir visiter ce que nous sommes vraiment profondément, ce que nous sommes vraiment appelés à être, sous le regard de Dieu, et en même temps, en ayant conscience que nous avons une psychologie particulière, que notre moi profond est habité par des blessures, par des manques, et que ces blessures et ces manques, il faut pouvoir les consoler et les guérir d'un point de vue psychologique et spirituel aussi.
Alors c'est ce à quoi vous invitez dans ce parcours, en l'occurrence. Choisir la vie, ça veut dire quoi dans ces cas-là?
Alors,
peut paraître être un mot un peu banal comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, en fait?
Alors, je reste très modèle du point de vue spirituel, puisque même si ça m'habite, je suis pas là pour accompagner spirituellement ces personnes. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de la psyché, de la psychologie, de l'accompagnement psychologique de ces personnes, on peut y puiser plein de choses. C'est véritablement un trésor.
Par exemple?
Par exemple, Simone Paco nous invite à choisir des lois de vie. Elle parle des 5 lois de vie. Est-ce que vous voulez que je les détaille?
Citez-en au moins l'une ou l'autre.
Alors, la première,
qu'on comprenne.
La première, donc, c'est de pouvoir choisir la vie. Et c'est vraiment lorsqu'on a eu un échec, c'est de pouvoir se remettre en route, hein, c'est de pouvoir sortir d'un passé qui peut être lourd.
Parce qu'en fait, vous entendez qu'on peut vivre sans avoir choisi la vie d'une certaine manière, c'est-à-dire quoi, d'être, on peut, enfin pour vous c'est familier, mais on peut ne pas trop comprendre. Pour une personne qui a divorcé, choisir la vie, ça veut dire quoi à un moment?
Ça veut dire décider que, après tout un chemin que j'explique lors de ces entretiens à Cotopaïs, ça veut dire qu'il y a un moment où on peut dire je sors de la plainte, j'arrive à renoncer, et je choisis de vivre quelque chose de nouveau sans mettre de côté. Ce que j'ai vécu, mais au contraire, peut-être en m'appuyant dessus pour pouvoir recommencer, pour pouvoir être autre, pour pouvoir...
Donc ça, c'est une première loi de vie, renoncer à la connivence avec la mort, choisir la vie, Deutéronome 30-19, si vous deviez en citer une autre,
alors, vous essayez de proposer. Je vais parler de la quatrième, la recherche de l'unité de la personne.
C'est va vers toi, Genèse 12-1.
Bravo. Prendre soin des 3 composantes, le corps, la psyché, le cœur. Ne pas les mélanger. Se rendre compte que les 3 sont importantes. Souvent, lorsque j'ai des couples en conseil conjugal, j'insiste sur le fait que un couple s'appuie sur ces 3 composantes, le cœur, le corps, la psyché. C'est extrêmement important. Et c'est vraiment constructif de pouvoir se dire qu'il n'y en a aucune qu'il faut laisser de côté, qu'il faut pouvoir bien les connaître, voilà, bien connaître son corps, sa psyché, son cœur.
Jean-Pierre Négro ou Isabelle Arnal, c'est quoi? C'est un parcours, en fait, quelque part aussi de guérison intérieure que vous proposez avec ce parcours Cotopaïs, Jean-Pierre Négro?
Oui, je crois que une blessure, si elle n'est pas prise en compte, une blessure donc affective dans ce cas-là, mais pas seulement quelquefois, elle ne guérit pas et elle fait toujours souffrir. Donc il faut la prendre en compte et la soigner, mettre sur la plaie donc des je fais un rapprochement avec blessure, mais mettre des conditions pour que cette guérison soit profonde, soit complète, et qu'elle puisse redonner lieu à une nouvelle vie, justement.
Même si on entend que c'est parfois l'occasion justement d'aller encore plus loin, hein, de visiter des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Alors c'est justement l'autre chemin que vous proposez sur la question de la vérité vous rendra libre, Claire Depré, où là aussi vous donnez quelques billes, j'ai envie de dire. Faire la vérité, donc en l'occurrence c'est quoi? C'est accepter, comme disait Jean-Pierre Négro, de regarder la réalité et de voir la part que chacun aurait en fait dans cette séparation.
Oui, c'est vraiment ça. C'est un mot qui est difficile à prononcer quand j'ai en face de moi des gens qui sont extrêmement blessés parce qu'ils ont été trompés ou parce que ça s'est mal passé dans leur couple. C'est cette co-responsabilité qu'il peut y avoir dans une problématique de couple. Faire la vérité, c'est pas forcément, c'est pas à mettre en balance avec le mensonge, parce que c'est pas le fait qu'on mente, qu'on se mente. C'est le fait que quelquefois, on n'a pas conscience de ce qu'on peut mettre en place dans une relation, des freins qu'il peut y avoir, de voilà. Et c'est important d'avoir un chemin de connaissance de soi, de d'oser se dire, de voilà. C'est plutôt ça, être en vérité. C'est oser. En fait, c'est oser. Ne pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui, même en couple, même s'ils sont mariés depuis longtemps, n'osent pas se dire les choses.
Alors ça m'a un peu étonné. Oser la vérité, justement, vous dites, donc quelque part un peu le prolongement de la première proposition, celle de choisir la vie. Mmh. Vous dites que en couple, bien souvent, on peut vivre en fait une vie de couple sans jamais être en vérité. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, il peut y avoir des personnes qui, parce qu'ils n'aiment pas le conflit, parce qu'ils ont peur de déplaire, parce que pour maintes et maintes raisons, ils ne vont pas oser prendre leur place, s'affirmer, dire ce qu'ils pensent. Voilà, ils ont des raisons qui sont entendables, un manque de confiance en eux, un manque d'estime d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ça, être en vérité, c'est oser se dire, oser prendre sa place, oser être soi-même, quoi.
Isabelle Arnal, qu'est-ce que vous diriez sur ce thème? Parfois, en fait, ça ne tient qu'à ça, parfois, une difficulté qui devient si grande qu'elle mène à la séparation, cette difficulté à être en vérité, à deux.
Je dirais que sur l'essentiel, sur le thème de la vérité vous rendra libre tel qu'il a été proposé, l'idée, c'est aussi après la séparation. Vous m'excuserez, je réponds un petit peu à côté de votre question, mais l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne de sortir du statut de victime. Parce que on a toujours tendance, qu'on soit la personne qui a subi la séparation ou bien qu'on l'ait choisie, il y a toujours cette tendance à se mettre en position de victime, comme elle est méchante, c'est elle qui m'a quittée. Bon, c'est toujours la faute de l'autre à un moment donné après une séparation.
Parfois, ça peut durer longtemps, hein.
Ça peut durer longtemps. Et justement, l'idée de faire la vérité, c'est d'arriver à reconnaître que dans une séparation, on est toujours deux et que la responsabilité est toujours partagée. Il faut accepter aussi, même si on a été quitté, de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui a mené à l'échec du couple. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut redémarrer, qu'on peut faire repartir sa vie.
Alors vous posez des questions parfois un peu crues, donc à l'occasion de ce parcours, on laisse entrevoir, hein, parce que le reste il faut le vivre. Dans ma belle famille, ai-je osé m'affirmer? Dans ma famille, ai-je pris du recul par rapport à ma famille? Éducation des enfants, ai-je pu confier mes questionnements? Voire même dans ma sexualité, est-ce que j'ai osé dire ce que je désirais, ce que je ne désirais pas? Pour les couples peut-être qui sont en difficulté et qui nous écouteraient, qui n'en sont pas à divorcer, Claire Depré, cet effort de vérité, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Prenez le temps qu'il faut pouvoir prendre le temps de se parler, c'est ça qui est... En fait, je crois que le maître mot, c'est vraiment le temps qu'on peut prendre ensemble. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait eu beaucoup de divorces au moment
du confinement.
Alors, oui, peut-être. Mais, et ça, on n'en parle pas. Moi, j'ai été extrêmement étonnée et en même temps, je m'en suis vraiment réjouie du nombre de couples que j'accompagnais. Il y a eu le confinement. Et du travail extraordinaire qu'ils ont pu faire parce qu'ils avaient quelques outils. Ils avaient eu le temps de se poser en entretien pour un peu se confier, déposer leurs griefs, leurs plaintes, etc. Et grâce au confinement, au fait qu'ils avaient le temps, qu'ils étaient ensemble, l'un en face de l'autre, toute la journée, eh bien, ils ont pu mettre en place certaines choses. Il y avait eu déjà un petit déclic de la parole en entretien. Et ensuite, ils ont pu vraiment continuer cette discussion. Et il y a vraiment des couples qui se sont retrouvés. Donc franchement, je pense que prendre le temps de se parler, prendre le temps de voir que l'autre n'est pas, ne va pas nous juger, ne va pas... voilà, voir que l'un et l'autre, nous ne sommes pas l'un contre l'autre, se faire confiance...
C'est l'occasion donc de le vivre. Alors ça tombe bien parce que enfin on n'est pas confiné, mais il y a encore des restrictions, donc profitons-en. En tout cas, à propos du parcours, donc chrétien séparé, divorcé, chemin d'espérance, on prend du temps aussi. Je l'ai pas précisé, ce sont des rencontres qui durent au long d'une année ou presque. On va faire une deuxième pause et puis on va entendre Marie-Pierre qui est concernée, qui a été fort discrète jusque là. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, un site internet coteau-pays.net ou un numéro de téléphone 05 62 71 65 30, 05 62 71 65 30.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les Cotopaïs aux côtés des divorcés, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invités Isabelle Arnal et Jean-Paul Négro, qui sont tous deux donc responsables de ce parcours chrétien séparé, divorcé, chemin d'espérance, dont on parle depuis maintenant un petit moment. Claire Depré est aussi en plateau, qui est conseillère conjugale, et Marie-Pierre qui est avec nous, qui est notre témoin du jour. Alors Marie-Pierre, vous avez été fort discrète jusque-là. Je vous en remercie, quoique je ne sais pas si vous remerciez pour ça, mais en tout cas aujourd'hui on va vous donner, enfin aujourd'hui, maintenant on va vous donner un petit peu de place. Vous avez eu la gentillesse donc et la générosité d'accepter donc de nous parler un petit peu de vous. Ce n'est pas chose facile, surtout quand c'est pour des choses aussi douloureuses. Il faut commencer par le début. Donc vous m'avez dit, pour le peu que je sais de vous, que donc vous êtes mariés, donc vous avez 4 enfants. Ce sont 4 enfants adoptés. Et puis, au bout de 33 ans de mariage, donc, votre mari a décidé de partir. Comment vous pourriez vous présenter peut-être davantage, puisque vous êtes là aussi pour expliciter un peu ce drame que vous avez vécu?
Je dois dire que maintenant, avec un peu de recul, je peux repérer des signes avant-coureurs de cette séparation. Mais à cette époque, il y a 10 ans, je ne pense pas avoir vu venir quelque chose d'aussi définitif. Donc en fait, ben j'ai explosé en vol. J'étais comme une espèce d'état de choc. Il me fallait trouver l'envie de vivre chaque jour. Alors, j'étais toute seule, les enfants étaient grands, ils avaient quitté la maison.
Les 4 hein, étaient partis.
Les 4 étaient partis, parce que je pense qu'il a attendu que les 4 partent pour partir. Et voilà, j'ai mis des mois à reprendre pied. En fait, assez vite, j'ai fait une retraite avec des divorcés, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis sentie moins seule. Dans un premier temps, je pense que c'était l'essentiel, savoir que ça arrivait à d'autres et que je pouvais partager les affres dans lesquelles j'étais. Et puis j'ai continué le chemin en passant par des vagues successives, bon, la douleur, l'humiliation, qui peu à peu se transforme en humilité, et alors ça va mieux dans ces cas-là, et la culpabilité, le manque de confiance en moi, les regrets aussi. Puis peu à peu est venue la reconstruction.
Alors vous dites que, enfin quand on en avait parlé un petit peu, hein, parce que évidemment des témoignages comme ça se prépare un tout petit peu, ça ne surprendra pas forcément les auditeurs, vous dites que vous avez mis donc quand même 2-3 ans à arriver à refaire surface, comme on dit avec avec des pauvres mots, hein, et qu'après donc vous avez décidé donc de faire une retraite ignatienne, donc cette retraite là dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin, et puis aussi pourquoi est-ce que vous avez eu envie comme ça donc de faire, donc au bout de presque 10 ans, puisque c'était au début de cette année, de faire cette retraite?
Alors un ami m'en avait parlé, et puis j'ai trouvé un tract au Cotopaïs. Et je me suis, oui, justement, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de refaire le point parce que je vais mieux, je vais même bien, mais j'arrive pas à envisager de pouvoir refaire ma vie. Pas par fidélité à mon ex-mari, mais plutôt parce que j'ai peur de souffrir à nouveau, parce que je fais plus confiance à l'amour et peut-être même à la vie. Donc, si je veux rester seule, c'est mon droit. Je trouve que ça, c'est, y a pas de problème. Mais si je reste seule pour ces raisons-là, je trouve que c'est pas juste. Donc j'avais besoin de revenir en discuter avec d'autres pour voir un petit peu comment pour eux ça passait les choses.
Alors vous allez nous raconter comment ça s'est passé et puis ce que vous avez reçu. Mais peut-être il y a une chose qu'il faut dire, c'est que à vous entendre, quand on vit ce genre de drame, on trouve pas forcément toujours, en tout cas ça n'a pas été votre cas, auprès de la communauté chrétienne, un lieu de réconfort, ou en tout cas des propositions adaptées. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ça? Ça a été difficile pour vous?
Alors, au niveau de la communauté chrétienne, si, pas mal. Ce qui est plus difficile, c'est l'Église. Parce que on se sent parfois rejeté ou non accueilli, je pense au sacrement, ou je pense à... Et quand on a vécu une souffrance, Dieu sait si on a besoin de la communion, du sacrement de réconciliation, et c'est pas toujours évident de se sentir sur la touche. Donc ça m'allait très bien de trouver un lieu qui était pas vraiment dans une paroisse, mais qui était donc au Cotopaïs, pour se retrouver entre chrétiens, dans une espèce de terrain neutre.
Alors, donc vous avez fait cette retraite, donc dont on a parlé au long de ce parcours, hein, plutôt au long de cette émission, donc chrétien séparé, divorcé, chemin d'espérance. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours, si vous deviez citer, je ne sais pas, un premier exemple, quel serait-il?
Alors, par exemple, peut-être la colère. Dans ce groupe, on était une dizaine, et j'ai vraiment apprécié dès le début le respect et l'écoute qu'il y avait entre nous. Et ils parlaient tous de colère. Et moi, j'ai pas éprouvé de colère. Et tout au moins, je croyais. Mais en fait, c'est pas dans mon caractère, c'est vrai. Mais cette colère, en fait, je l'avais retournée contre moi. Et du coup, je culpabilisais, et du coup, je me dévalorisais. Et ils m'ont fait prendre conscience de ça, par exemple. Il y a eu d'autres échanges où j'ai réalisé à quel point j'étais naïve dans ma conception d'éternité dans le sacrement de mariage.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que je savais bien que c'est pas la petite maison dans la prairie et que une vie de couple c'est long. Mais je me disais on a l'éternité pour y travailler. Quand les enfants seront partis, on s'y mettra, on s'y remettra, on retrouvera d'autres manières d'être ensemble. Et j'avais l'impression que j'avais l'éternité. Or, en fait, je pense que il faut rester vigilant. Je pense aussi que quand les enfants sont ados ou, on est parfois plus parents que, moi, j'étais certainement plus mère que femme.
Alors, il y a un autre point, semble-t-il, qui vous a marqué pendant la retraite. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Peut-être c'est l'idée que vous faisiez justement des directives de l'Église. M'avez-vous dit en préparant, c'est-à-dire vous avez mieux compris peut-être ce que signifiait cette fidélité que Dieu demandait?
Oui, je pense que le Christ. Bon, d'abord de faire un parcours comme ça, c'est parce qu'on a envie d'avoir le Christ dans sa vie et d'essayer de comprendre en quoi cette expérience nous mène plus loin et qu'est-ce qu'il veut pour nous à travers ça. Et je pense que l'Église est faite d'hommes, mais le Christ accompagne chacun. Et j'ai mieux compris que j'étais aimée de Dieu et que ce que je faisais, si je le faisais en conscience, avec justesse, c'était bon.
Vous parliez par exemple de la communion.
Oui, par exemple. Oui, je communie, par exemple.
Vous pouvez dire davantage.
Oui, je communie. Alors, on nous demande de pas provoquer, c'est-à-dire que si on sait qu'il y a des gens qui sont contre, on nous demande d'aller dans une autre paroisse. Ou bon, il se trouve que dans ma paroisse, personne m'a jamais rien dit. Mais oui, je me suis rendu compte que. Bon, il faut peut-être des directives dans l'Église pour parler à tout le monde, mais après, il y a des cas particuliers, il y a des chacun est avec sa conscience, peut en discuter avec le prêtre qui est là, et je crois juste de pouvoir prendre la force dans les sacrements, nous qu'en avons tant besoin.
Alors maintenant, quand vous, c'est souvent la question que je pose aux personnes qui témoignent. Alors vous, le recul, on va dire, est plus léger puisque vous avez fait donc ce parcours lors du début de l'année 2020. Quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça a changé de faire cette retraite? C'était pas la première que vous faisiez, vous l'avez dit, hein.
Non, c'est pas la première, et c'est vrai que ça jalonne ma vie, pas en tant que divorcée, mais en tant que chrétienne. J'ai besoin de prendre des temps de pause comme ça régulièrement. Eh ben ça me conforte dans l'idée qu'il faut pas rester seul et que l'Église propose des lieux où on peut se poser avec d'autres et où on peut partager et dont on ressort plus fort, ça c'est sûr. Et puis je me suis aperçue aussi vu que je refaisais ce parcours 10 ans après le divorce, le chemin parcouru, déjà ça fait du bien de voir que l'eau a coulé, qu'on n'est plus dans le même trou, donc ça c'était le recul, voilà.
Vous me disiez aussi que donc vous aviez été, ça on peut le redire quand même, marqué donc par la fraternité, hein, qu'il y avait lors de ce
oui,
dans,
oui.
Dans ces groupes. Ça peut être important, oui, peut-être à repréciser pour ceux qui viennent chercher ça aussi.
Les partages, bon, comme ça a été dit, les thèmes abordés sont des thèmes vraiment humains et des choses qu'on traverse comme le pardon, comme la colère, comme la nouvelle parentalité, parce qu'il faut apprendre à être parent autrement. Notre place dans l'Église, etc. C'est des choses très concrètes et les partages sont très simples.
Vous me disiez aussi que ça vous avait appris peut-être à moins culpabiliser quand vous regardiez en arrière, que ça vous avait aidé voilà, vous rendre compte que c'était un chemin pour lequel il y avait une issue, justement, de vous être arrêté un moment et d'avoir fait ce parcours?
Oui, je pense que les témoignages des autres m'ont montré les points, que les points pour lesquels je culpabilisais, en fait, bon, c'était pas forcément à moi de porter ça. Chacun a sa vérité dans un couple. Et il voyait les choses à travers son prisme et c'était pas forcément le mien. Et donc, ça ne sert à rien de culpabiliser là-dessus. Et j'ai compris aussi que, au bout d'un moment, je voulais toujours savoir pourquoi t'es parti, pourquoi, et j'obtenais pas de réponse. Et j'ai cessé de vouloir pourquoi. Il est parti, stop, maintenant, qu'est-ce que j'en fais?
Vous diriez aujourd'hui, si c'est pas indiscret, hein, que vous voyez que votre, il y a un chemin qui s'ouvre devant vous?
Oui. Alors, le chemin, ben, il continue. Je suis certainement plus cabossée, mais peut-être pas moins belle. Et bon, c'est un chemin escarpé, mais ça a son charme. Je dis pas que je serai allée au-devant, mais je trouve que tout ce que j'ai découvert dans ce parcours et dans ces années passées, je l'aurais pas découvert en restant en couple.
Eh ben, merci beaucoup Marie-Pierre de nous avoir donné ce généreux témoignage, et merci à tous les invités donc pour nous avoir introduit à ce parcours, donc chrétien, séparé, divorcé, chemin d'espérance. On va donner à la fin de l'émission donc tous les coordonnées pratiques pour tous ceux qui voudraient suivre ce temps de retraite. C'est donc organisé par les Cotopaïs. C'est donc pour ça. Enfin voilà, il suffit de les appeler. Centre spirituel jésuite, 9 rue Montplaisir, c'est à Toulouse. Un numéro de téléphone, 05 62 71 65 30. 05 62 71 65 30. Sinon, vous tapez Cotopaïs sur internet, chemin d'espérance, et vous trouverez. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radioprésence.com.